Mike, wind 250 degrees, 1 3 knots.
Clear.
River green. Descend.
Bienvenue sur le cinquième épisode de l'expérience Shibon. Je suis Sébastien et j'espère que, comme toujours, tu vas passer un moment instructif, divertissant et inspirant. Notre invité du jour est Antoine, pilote de ligne sur Airbus en Suisse et podcasteur à ses heures perdues. Animateur du podcast Parlons Aviation, il nous fait le plaisir d'accepter d'inverser les rôles et de prendre la place de l'invité pour cette discussion. Nous parlerons principalement de l'évolution de sa passion pour l'aéronautique au fil de sa carrière, de ses reconversions professionnelles pas toujours évidentes et de son quotidien de pilote de ligne dans le contexte actuel de crise, notamment du secteur aéronautique lié à la pandémie mondiale. Bonjour Antoine et bienvenue sur l'expérience Shiban.
Bonjour, ravi d'être ici.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui depuis Genève, si je ne dis pas de bêtises, aux alentours de Genève, où tu es pilote de ligne sur Airbus A320, dans une compagnie aérienne bien connue que tu aimes appeler Superjet, pour ne pas la citer. Tu es de ces amoureux de l'aviation qui aiment partager leur passion, notamment via ton excellent podcast Parlons Aviation, sur lequel nous reviendrons un peu plus tard. Alors, dans un premier temps, je vais essayer de résumer ton parcours pour l'auditeur. Alors, un peu comme Obélix, tu es tombé dans la marmite du druide de l'aviation très jeune, notamment par ton père, Vélivol, et ingénieur aéronautique chez Dassault. Tu es toi-même devenu pilote de planeur durant ton collège et lycée. Après ton baccalauréat, tu as intégré l'UTT de Troyes, une école d'ingénieurs spécialisée en informatique. Et du coup, pendant cette période, tu as dû t'éloigner un petit peu du monde de l'aéronautique, même si ton stage de fin d'études était chez Dassault Aviation. Une fois diplômé, tu es sélectionné par SkyGuide en Suisse pour devenir contrôleur aérien. Et après une formation de 18 mois, coup dur, toute ta promotion se voit remerciée. Et tu arrives néanmoins à y voir l'opportunité d'accomplir ton rêve de pilote de ligne. Et c'est après 3 ans de formation modulaire, en parallèle d'un travail d'ingénieur en Suisse, que tu obtiens enfin toutes tes qualifications pour devenir copilote sur avion de ligne. Rapidement après, tu es sélectionné par une grande compagnie low-cost européenne pour faire de l'A320 à Genève. C'est l'aboutissement d'un sinueux et beau parcours de formation qui te mène aujourd'hui à sillonner les cieux européens et qui te laisse le temps aussi de t'adonner à ton autre passion, le partage. En effet, tu es instructeur en compagnie, instructeur ATPL théorique, et tu produis également depuis fin 2017 le podcast Parlons Aviation, podcast dans lequel tu donnes la parole à de nombreux acteurs du monde de l'aéronautique pour qu'ils puissent partager leur savoir et leur enthousiasme. Alors, la première question que je souhaiterais te poser, Antoine, c'est au vu de ton parcours qui t'a permis d'avoir un champ de compétences assez vaste, est-ce que tu penses mieux appréhender ton métier ou avoir une vision plus éclairée sur les contraintes qui l'entourent? Alors, dit autrement, est-ce que le fait d'avoir une vie professionnelle avant le métier de pilote change la donne dans ton métier aujourd'hui au quotidien?
Alors, je dirais que c'est une question assez difficile à répondre comme ça, parce que c'est difficile à évaluer, mais globalement, je dirais plutôt que oui. Oui, c'est clair que c'est quelque chose qui aide à d'avoir fait notamment SkyGuide, cette formation de contrôleur aérien. Il y a pas mal de théories à travers tout ça, de la théorie des espaces aériens, de la théorie un peu de mécanique du vol, parce qu'il y a quand même, en tout cas, les 6 premiers mois de la formation basique se calaient un petit peu, disons, sur l'ATPL théorique, qui est passé par les pilotes, normalement, habituellement, en tout cas. Et donc, ça m'a permis, en tout cas, d'avoir un certain bagage technique, déjà. Alors ça, c'est toujours très intéressant pour quelqu'un qui a une curiosité technique comme moi. Et toute cette notion de gestion de l'espace aérien, de comment ça marche, les normes de séparation de trafic, les procédures de navigation, tout ça, c'est une partie intégrante de la formation de contrôleur aérien. Donc ça m'a également été très utile, en volant en tant que simple PPL au début, en tout cas d'avoir un peu ce background. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est super utile et qui est très intéressant de manière générale. Et puis peut-être de manière un petit peu plus inattendue, alors une fois en compagnie, ce background d'ingénieur, oui, c'est quelque chose qui m'a servi. Alors Une fois que je suis arrivé en compagnie aérienne, assez vite, ils ont cherché des postes d'instructeur. Puis bon, bah, moi, au bout d'un an, je me considérais absolument pas du tout qualifié pour faire ce genre de fonction supplémentaire. Parce qu'évidemment, quand on a un an d'ancienneté, on sent très bien la limite de ses connaissances, qui est assez étroite, hein, évidemment, pour le temps d'apprendre. Et donc, j'avais une discussion avec le responsable de la formation au sol. Et puis, il m'a dit, bah, écoute, postule, hein, tu verras bien. Ils vont faire les tests. Et puis, bah, s'ils te disent que t'as le niveau, c'est qu'ils auront confiance en toi pour acquérir ce niveau et avoir des bases suffisamment solides. Je dis bon bah ok, allons-y, postulons. Et c'est là où c'est assez utile, parce que on va nous demander des choses comme faire une présentation sur un sujet technique. Alors moi, j'avais fait une présentation sur le cisaillement de vent, par exemple. Alors ça, c'est vrai, quelque chose qui est pas du tout inclus dans la formation de pilote. On n'apprend pas vraiment à faire des présentations, on apprend à faire des briefings, mais c'est vraiment quelque chose qui a aucun rapport à mon avis. Alors qu'en tant qu'ingénieur, à faire des présentations, expliquer des sujets techniques à des audiences un peu moins techniques, ça, c'est vraiment la base du métier. Les ingénieurs, aujourd'hui, on passe beaucoup de temps à expliquer, par exemple, à une équipe commerciale comment il faut vendre un produit, ou expliquer à d'autres prestataires qui s'occupent d'une partie un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire, comment ça fonctionne. Et ça, en fait, ça tombait vraiment complètement bien pour ce rôle-là, et eux m'avaient clairement dit que eux appréciaient ce background d'ingénieur pour ça. Et puis peut-être un peu plus basiquement, les compétences en informatique aujourd'hui, c'est quelque chose qui est utile dans la vie de tous les jours, et aussi en compagnie aérienne. Et donc c'est clair, quand on fait de l'instruction, maintenant c'est beaucoup de l'instruction avec des outils informatiques, et ça, c'est quelque chose qui m'a été très utile. Alors bon, c'était pas quelque chose que j'aurais pu prévoir, mais de réussir à faire fonctionner des applications Airbus qui sont peut-être un peu datées, ce genre de choses. Donc ouais, c'est clair que au niveau technique, ça m'a beaucoup aidé. Et surtout, ce qui est, à mon avis, peut-être le plus important, plutôt que cette phase technique, je dirais, c'est l'appréciation du métier. C'est-à-dire que un travail d'ingénieur, c'est quand même un bon boulot, surtout que moi, j'ai eu beaucoup de chance sur le travail que j'ai eu entre la fin de la formation contrôleur aérien et le début de mon boulot en tant que pilote. Et donc, j'ai bossé dans une start-up avec vraiment un environnement de travail qui était super. Et maintenant, quand je suis pilote, et quand tous les mois j'ai un week-end de 4 jours, et quand j'ai fréquemment des week-ends de 3 jours, et quand on a un planning qui est certes par moments pas facile, néanmoins dans les périodes creuses, et même de manière générale, j'ai une appréciation vraiment très claire, hein, pour le mode de vie que ça représente, en tout cas tel qu'il est implémenté dans ma compagnie. Et maintenant que je suis papa, depuis 2 ans maintenant, alors cette appréciation de ce planning-là, elle est vraiment juste énorme, quoi, parce que je vois des amis qui sont ingénieurs et qui ont du temps libre avec leur enfant, qui est quand même largement plus faible que ce que moi j'ai la chance d'avoir. Et c'est vraiment dans ces moments-là que je me rends compte de la chance que j'ai, et que ce soit moi et puis aussi quelque part ma famille, parce que eux en bénéficient aussi de ma présence quelque part.
Donc oui, un petit peu pour résumer, ça te permet déjà d'avoir des compétences en plus, forcément, vu que tu as fait autre chose, mais aussi de mieux apprécier le fait que c'est quand même un beau métier avec un style de vie qui laisse du temps libre. Donc ça a quand même plusieurs avantages, finalement, d'avoir fait autre chose avant. C'est pas du temps perdu, selon toi.
Ah ouais, alors exactement, c'est vrai que moi, mon parcours, il est assez long, mais si on regarde quand même de manière plus générale, des gens qui ont accédé à des métiers tels que celui de pilote de ligne, des gens qui ont mis 10 ans à accéder à un cockpit par rapport à quand ils ont commencé ou ils ont fait le souhait, ils se sont dit « je vais le faire », c'est pas si exceptionnel que ça. Quand quelqu'un qui cherche à devenir pilote, il va un peu lire, je sais pas, la littérature, les brochures et tout ça, il va penser, c'est 3 ans de formation, après on accède à un cockpit. En réalité, évidemment, il y a des gens pour qui c'est le cas, et c'est très bien, hein, c'est vraiment très bien que les gens y arrivent à le faire comme ça. Mais si on regarde de manière un petit peu plus large, les gens qui sont en compagnie aujourd'hui, on voit quand même souvent, c'est des gens qui ont mis un certain temps. Et il y a quand même, en général, assez peu de gens qui ont eu un parcours tout droit tracé, 2 ans et demi de formation, appelés en compagnie, sélectionnés en compagnie, lâchés en ligne. Il y a quand même assez peu de gens qui ont des parcours comme ça. Donc moi, entre mon bac et la formation et la qualif Airbus, il s'est passé 10 ans à peu près. Et c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Et donc les parcours sont sinueux. Et si on regarde bien, si je regarde autour de moi, en tout cas, les gens qui ont des parcours sinueux, c'est pas vraiment une exception, c'est plutôt la norme. Et donc, voilà, pour ceux qui souhaitent devenir pilote, c'est pas si exceptionnel. Et puis, beaucoup sont passés par là, en tout cas.
Et ça fait des, Ouais, ça peut faire des conversations intéressantes en vol, j'imagine, pour discuter un peu de ce qu'on a fait avant.
Ouais, ça c'est clair. Ouais, c'est vrai que je pense de manière générale, en tout cas, la plupart des gens dans l'aviation sont assez curieux parce qu'ils ont tous, enfin, la plupart quand même, ont fait un peu autre chose. Alors, est-ce que c'est autre chose de la petite aviation légère ou à autre chose d'informatique, par exemple? Mais c'est vrai que dans les cockpits, j'ai régulièrement des conversations d'informatique, alors soit technique, soit plus liberté civique, tout ça, avec des commandes de bord. Donc, c'est vrai que c'est une diversité qui est que moi j'apprécie, en tout cas c'est quelque chose qui est important pour moi. Je peux comprendre que ce soit pas important pour tout le monde, mais moi c'est quelque chose que j'apprécie, ouais, c'est clair.
Alors je te propose de revenir un petit peu en arrière sur ton adolescence, et ma question c'est: comment à ces âges-là tu as pu faire vivre ta passion? Tu as notamment fait du planeur, peut-être de la simulation de vol également. Et voilà, est-ce que tu as encore le temps ou l'envie de faire ça aujourd'hui? Alors peut-être avec un travail et une petite fille, comme tu disais, c'est peut-être plus compliqué, mais...
Alors oui, c'est un peu différent, mais ça c'est vrai, j'avais l'analogie que tu faisais avec Obélix et la marmite de l'aviation, je trouve elle est assez juste. Il y a beaucoup de gens souvent qui se souviennent, ouais, avant 2001 évidemment, donc de plus en plus les gens jeunes n'auront plus cette possibilité, mais se souviennent, ouais, j'ai fait tel et tel voyage, on a été en vacances, et puis j'ai pu être dans le cockpit. Et là, ça a été une révélation pour moi, et c'est bien, c'est important ces moments révélateurs. Mais moi, j'ai eu cette chance, parce que je considère que c'en est vraiment une, d'avoir toujours baigné dans l'aviation, si tu veux. Moi, une bonne partie de mes vacances d'été, en général 2 semaines par été, ben il y en a qui allaient à la plage ou d'autres endroits sympas. Ben moi, j'allais au terrain de planeur, aller faire. Ben mon père, moi, fait des concours où on faisait juste des stages de planeur. Donc moi, je faisais partie de ces enfants qui faisaient un peu le bazar et qui aimaient bien regarder avec admiration le remorqueur tirer les planeurs et tout ça. Donc moi, j'ai vraiment toujours été là-dedans. Donc j'ai vécu dans ce milieu. J'ai aussi eu la chance d'être beaucoup entouré de gens d'Air France. Typiquement, c'était un club qui était affilié Air France et même d'autres compagnies. Donc avoir entendu ces histoires de vieux combattants, même moins vieux d'ailleurs. Donc moi j'ai un peu toujours bercé dans tout ça. Donc ça c'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi. C'est vraiment quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie. Puis après, la première chose que j'ai eu la chance de faire à travers mon père, c'est de faire de l'aéromodélisme. C'est quelque chose, j'ai fait un épisode là-dessus récemment, et puis en fait je m'y suis remis récemment à l'aéromodélisme après quand même pas mal d'années d'arrêt. Et ça c'est vraiment, je trouve, une excellente initiation, parce que ça coûte un peu d'argent, bien sûr, pour un enfant de 10 ans c'est trop cher, mais avec l'appui des parents c'est tout à fait possible d'apprendre les bases du pilotage. C'est quoi une prise de terrain, ça sert à quoi un centre de gravité? Alors en aéromodélisme on peut vraiment facilement se tromper, puis l'effet il est assez clair assez vite, et tout ça. Donc ça a été vraiment une première initiation. Puis mine de rien, un enfant de moi j'avais quoi, 11 ans peut-être à l'époque, d'être lâché solo, alors bon, par son père sur un avion qui vaut quand même 100-200 euros, c'est quand même un gros niveau de responsabilité que t'as pas l'habitude d'avoir à ces âges là après ensuite effectivement, dès que j'ai pu, j'ai fait du planeur. Alors ça c'est pareil, le planeur je devais avoir 15 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est pareil, t'es lâché solo à 15 ans, t'as une machine qui vaut, je sais pas combien ça vaut un planeur, mais 30-40 000 euros, et c'est toi, c'est ton truc, c'est ta responsabilité. Alors pendant qu'une heure, évidemment, mais quand même c'est déjà beaucoup. Donc ça a été un apprentissage. Et puis en parallèle, effectivement, Flight Simulator, moi j'ai toujours été assez intéressé par l'informatique, donc Flight Simulator c'était quelque chose d'idéal. Alors un peu essayer de voir avec les add-ons qui existent, PMDG, tout ça, ceux qui ont déjà fait du simulateur Flight Sim connaissent bien. Alors ça c'est toute une découverte un peu à tâtons d'un monde que je connaissais pas. Donc c'était ça fait partie de mon parcours, ouais, c'est clair.
Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça me rappelle un peu aussi mon parcours à moi. Alors pas tout à fait pareil, mais on aura l'occasion d'en discuter dans quelques semaines peut-être sur ton podcast Parlons Aviation.
Avec plaisir, bien sûr.
Alors je voudrais passer à la question suivante, qui est peut-être un peu moins facile. Tu as vécu une situation assez difficile à la suite de ta formation de contrôleur aérien, quand ta promotion a été remerciée. Déjà, pourquoi c'est arrivé? Et ensuite, comment tu l'as vécu et qu'est-ce qui t'a donné la force de rebondir ensuite? Parce que tu as quand même enchaîné assez rapidement sur une formation de pilote.
Alors, c'est vrai que... Alors, effectivement, il y a plusieurs questions. C'est vrai que ça paraît rapide, mais dans ces circonstances, 6 mois, et puis à cet âge-là, dans cette ambiance qui était vraiment extrêmement mauvaise, C'est vrai, quand on réfléchit, 6 mois, c'est pas beaucoup par rapport à une vie ou même par rapport à une durée de formation. Le problème, alors c'est un peu difficile pour moi de parler de tout ça en restant poli, parce que vraiment l'ambiance de formation telle que je l'ai vécue a vraiment été quelque chose d'extrêmement délétère. C'était vraiment au contraire de tous les principes de pédagogie que je connaissais pas à l'époque et que j'ai pu apprendre depuis à faire de la formation. Donc c'était vraiment un style de formation et d'instruction où l'humiliation était quelque chose d'acceptable, par exemple, où il y avait pas de cohérence entre les instructeurs et où la notion de pression psychologique était acceptée comme quelque chose de tout à fait correct. Alors évidemment, présenté comme ça et vu avec le recul, c'est évident que ça marche pas, mais c'est aussi un excellent exemple on a parlé un peu sur Parlant Aviation de just culture, donc de culture bienveillante où on accepte l'erreur. Bah là, c'était évidemment tout l'inverse. Donc ce style qui est souvent un peu qualifié de à l'ancienne, que je suis pas sûr que cette qualification soit toujours très pertinente, mais c'était vraiment voilà une ambiance de formation qui était vraiment extrêmement mauvaise, on peut le dire. Il y avait eu la première année qui était à Zurich, qui elle se passait très très bien. Et puis après, on allait en unité, donc dans une unité de contrôle. Et là, ça avait vraiment été la catastrophe. Et c'était triste parce que, déjà, eux, ça leur faisait perdre des quantités d'argent qui étaient absolument faramineuses, hein, parce que une formation de contrôleur, ça coûte extrêmement cher. On fait des centaines d'heures de simulateurs, des simulateurs qui vont coûter à peu près le prix d'un simulateur full motion, pour ceux qui connaissent pour les pilotes, parce que faut pas juste le simulateur, il y a des gens techniques, puis il y a des gens qui font vivre les plots sur le radar, tout ça, donc ça coûte très cher.
Et puis c'est une question que je me posais, désolé de t'interrompre, mais combien ça coûte justement une formation de contrôleur à peu près, juste un ordre de grandeur pour une formation pilote? L'ordre de grandeur, on va dire, c'est 100 000 euros, parfois moins, parfois plus, mais une formation de contrôleur?
Alors c'était la partie positive de cette formation, c'est que c'était une formation où tout était payé et même je touchais un salaire pendant cette formation. Donc en termes de risque personnel, c'était beaucoup plus faible qu'une formation de pilote finalement. C'est pour ça que je l'ai fait, en plus de l'attrait pour ce métier que je trouve quand même vraiment génial, le métier de contrôleur aérien. Donc j'ai pas d'idée exactement, mais je sais que le prix d'une heure de formation sur un simulateur de contrôle aérien, ça paraît plus basique parce qu'il n'y a pas les vérins, il n'y a pas tout un cockpit de monter, mais il y a quand même toutes les consoles de contrôle aérien. C'est à peu près le même prix qu'un simulateur full motion. Puis évidemment, du simulateur full motion, en 4 ans de compagnie, j'en ai une centaine d'heures, quelque chose comme ça. Et là, on faisait, en un an et demi, on avait quand même plusieurs centaines d'heures, donc par personne. Donc ça revient vite très cher. J'ai pas de prix exact.
Une heure de simulateur full motion, c'est combien à peu près l'ordre de grandeur?
Alors ça dépend ce qu'on inclut dedans, mais entre 400-500 euros, quelque chose comme ça va dépendre. Évidemment, les compagnies ont des prix de gros et ce genre de choses, donc ça va être quelque chose qui va être très variable. Mais si demain on veut louer un simulateur full motion, ça va être cette ordre d'idée là, entre un peu plus de 500 euros de l'heure, quelque chose comme ça.
D'accord, merci, désolé pour l'interruption.
Pas de souci. Donc, bref, tout cette histoire de Skyjet, ça s'est fait vraiment dans une ambiance qui était extrêmement mauvaise, avec vraiment une culture qui était systémiquement pas bienveillante du tout. Et ça a été très dur, ouais, c'est clair, parce que déjà on se faisait virer les uns après les autres, puis on se faisait plus ou moins insulter, hein, ça les dérangeait vraiment pas du tout. Et puis ça allait même dans des choses vraiment très malsaines au-delà de ça. Et donc c'est clair que psychologiquement, moi, j'avoue avoir jamais vraiment été proche de mes limites en termes de rupture psychologique, et je les ai pas vraiment atteintes, mais clairement la marge elle était réduite à ce moment-là. Donc c'est clair que pour moi ça a été très difficile cette période-là, parce que on était 4-5, on s'entendait très bien, on avait été plus ou moins coloc pendant un an, pendant la première année, et vraiment on essayait de soutenir, vraiment on s'est battu au maximum pour un but qui nous échappait de plus en plus et qui n'était pas atteignable. Et un moment où l'ambiance elle est tellement mauvaise, qu'à un moment tu te fais tellement humilier, tout ça, qu'à un moment tu te dis, bon bah, est-ce que je lâche l'affaire? Et on avait vraiment, je pense pouvoir le dire, jamais lâché l'affaire, donc on s'était toujours battu. Et puis il y a un moment où ton état psychologique il se dégrade, puis évidemment tes performances avec elles vont se dégrader aussi, hein. Il y a pas de magie quand t'es pas bien, quand tu te fais traiter comme ça, fait pas ressortir le meilleur des gens. Et puis à un moment on nous a dit ciao, vous êtes tous virés, et ça a été dur à encaisser, je dois dire. Surtout que c'est, en plus, c'est assez difficile parce que j'avais passé un an et demi dans ce truc-là. Et en plus, bah, le problème, c'est que moi, ça me faisait un trou dans mon CV, si tu veux, parce que j'étais jeune ingénieur. Et puis, le lendemain de ma formation d'ingénieur, j'avais dû faire ça. Et puis, à un moment, bah, vas-y, va trouver du boulot et va valoriser une formation de contrôleur aérien qui n'a pas été finie en plus. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Et c'est là où, par chance, hein, une fois de plus, en fait, j'avais un emploi que j'avais en parallèle de mes études pendant que j'étais ingénieur, où je faisais un peu d'administration système. Et en fait, cet emploi-là, je l'avais gardé pendant la formation de contrôleur aérien parce qu'on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps libre. Et donc, bah, en plus de la formation de contrôleur aérien, j'avais fait continuer à faire un peu d'informatique. Et donc, grâce à ça, j'ai pu dire, bah, vous voyez, en fait, j'ai jamais vraiment arrêté de faire de l'informatique. Et donc, j'étais employable. Mais quand même, c'est quelque chose qui a mis 3-4, alors je dirais à peu près 3 mois pour un peu me remettre les idées en tête, en ordre, quoi, pour pouvoir être à nouveau fonctionnel dans un entretien et ce genre de choses. Et après, 3 mois pour trouver du boulot. Donc, évidemment, ça paraît court, mais je peux garantir qu'à ce moment-là, ça paraît vraiment très, très long, quoi. Donc, ouais, franchement, ça a été vraiment, vraiment très dur. Et bah, grâce au soutien de ma femme, principalement, et au temps, hein, le temps ça aide souvent et ça s'est rentré dans l'ordre, quoi.
D'accord, donc une période difficile, mais tu as su rebondir, retrouver un emploi, notamment grâce au boulot que tu avais gardé en parallèle. Et tu as enchaîné ensuite sur ta formation pilote pro. Combien de temps après, du coup, tu disais 6 mois pour retrouver un boulot, la formation, combien de temps après? Et ensuite, bah, comment ça s'est passé, cette formation de pilote? Mieux, j'espère, j'imagine.
Oui, beaucoup mieux, heureusement. Honnêtement, pour faire pire, ça devient vraiment difficile, hein, pour être tout à fait honnête. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est donc, évidemment, qu'on a tous été virés de cette formation de contrôleur aérien, la priorité, c'était de retrouver un boulot. Surtout qu'il faut savoir qu'il y a eu un moment charnière extrêmement important dans ma vie avec ma femme. C'est-à-dire que la première année, c'était à Zurich. Donc, elle bossait à Paris, elle est juriste. Et elle était restée bosser à Paris et puis moi j'étais à Zurich. Puis après on s'est rejoint à Genève, là où je devais finir la formation de contrôleur aérien. Et elle a donc quitté son boulot à Paris, qui était un CDI qui était très bien, et m'a rejoint à Genève, à côté de Genève en France. Et elle a trouvé un boulot, c'était un contrat temporaire, puis c'est devenu un contrat permanent, et moi je me suis fait virer derrière. Donc ça a été vraiment une période charnière extrêmement importante qui a fait, parce que si on se serait retrouvé les deux au chômage dans une région qui n'était pas la nôtre initialement, ça aurait été extrêmement difficile. Donc il y a eu ça qui a été un moment charnière très important, et on a eu une fois de plus ce que je considère être beaucoup de chance. Et après, donc j'ai retrouvé mon boulot en informatique, là, la formation. Et là, pendant ce temps-là, en fait, de chômage, Skyguide m'avait payé 25 heures de PPL, disons, de vol moteur. Et donc, je me suis remis dans l'avion. Je dis, bah, ok, j'aimerais bien être pilote de ligne. Actuellement, j'ai pas les finances pour le faire. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais continuer mon PPL. Voilà, j'avais déjà 25 heures. Donc, pendant ce temps-là, et ça m'a aussi évidemment aidé à sortir un peu la tête de ce marasme, de ces difficultés, hein, de faire le PPL, en fait. J'ai fait ça, c'était super. J'ai vraiment eu des super instructeurs et instructrices. Et donc, voilà. Après, donc, j'ai retrouvé du boulot en informatique. Et là, c'était le beau manque charnière où je me suis dit, bah, OK, go, c'est parti, quoi. Moi, je voulais être pilote, donc on va essayer de faire pilote. Alors, c'était en 2013, donc les circonstances d'embauche étaient vraiment pas très bonnes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais inscrit à une liste d'emails qui s'appelle la Pilot List, pour ceux qui connaissent. Et en fait, il y a plein de gens dans l'informatique, dans l'aviation légère et de l'aviation de ligne. Et puis, un gars, j'avais compris, qui était copilote dans une compagnie aérienne à Genève. Et puis je me dis, bah tiens, je vais le contacter, lui, voir ce qu'il a à me dire, quoi, ce qu'il en pense, parce que moi, la Suisse, c'est une région et un pays que j'aime beaucoup, que j'ai appris à apprécier énormément. Et donc, en fait, ce gars-là était super sympa, et il m'a tout de suite appelé, bah vas-y, file-moi ton numéro de téléphone, on discute. Puis en fait, 2 semaines après avoir commencé mon nouveau boulot d'ingénieur, en fait, donc je l'avais au téléphone, on a été manger ensemble un repas d'un soir, et on parlait d'avion pendant évidemment des heures, hein, et puis lui m'a expliqué son parcours, et là je me suis dit, banco, c'est ça que je veux faire. Moi je veux faire ça, cette compagnie elle a l'air chouette. Cette école-là, elle était à 10 minutes en voiture de mon emploi, c'était du modulaire, donc je pouvais continuer à avoir mon boulot, et cette école fournissait des partenariats avec la compagnie locale qui était donc juste à côté. Donc là, j'ai vu le parcours de cette personne qui avait un profil en plus assez similaire au mien, donc qui était ingénieur. Lui était ingénieur dans l'informatique financière, donc c'était pas si différent que de ce que je faisais. Puis il m'a dit, voilà, moi j'ai fait ça. Et moi j'ai dit, bah, moi je veux faire pareil. Et puis, donc 2 semaines après, On a discuté avec ma femme et puis on a dit bon bah voilà, hein. Donc là j'étais déjà 2013, ça fait quoi, ça fait 7 ans après le bac, donc ça commence déjà à faire un petit peu long. Puis après l'échec de Skyguide, disons quand même on était un peu commencé un peu à se dire que les études ça suffisait bien, et puis on a discuté, on a dit bon, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, et avec ma femme, donc on a pas mal discuté, et notre conclusion ça a été de dire ouais on le fait, parce que si on le fait pas maintenant on le fera jamais, ce que je pense qui était une évaluation qui était juste. Et mais par contre on le fera pas à n'importe quel prix. On voit beaucoup sur les forums, on voit beaucoup sur internet des gens qui disent moi je vais être pilote à n'importe quel prix. Pourquoi pas? Est-ce que c'est vraiment judicieux? Ben, ça dépend des circonstances de chacun. Mais en tout cas, moi, dans ce cas-là, c'était pas vraiment l'état d'esprit dans lequel j'étais. Donc, on avait posé des curseurs. On avait dit, on n'acceptera pas n'importe quel boulot. J'irai pas à l'autre bout de l'Europe, dans des pays dans lesquels j'ai pas envie de vivre, pour devenir pilote, comme une sorte d'étape intermédiaire. Donc, je vais faire cette école qui est certes plus chère, qui a ce partenariat avec cette compagnie et quelques autres partenariats avec des compagnies d'aviation d'affaires genevoises. Et bah, si j'ai un boulot qui est suffisamment correct, qui ne me force pas à aller dans un endroit où je n'ai pas vraiment envie d'aller, alors je le ferai. Et évidemment, on s'est dit, ben, voilà, si ça ne le fait pas, si j'ai un emploi dans une compagnie que, pour laquelle je n'ai pas envie de bosser, pour laquelle notre qualité de vie de famille ne serait pas suffisante, alors ben, ce sera, je refuserai, enfin on refusera tous les deux, c'était une décision qui aurait été de toute manière en couple, de couple, et donc on est parti là-dedans comme ça quoi.
D'accord, donc ça t'a amené à faire cette formation bah, pas loin de chez toi, du coup, en modulaire, c'est-à-dire où tu passes les modules un par un, pilote professionnel, vol aux instruments, etc., en parallèle de ton travail. Et ça a été assez simple à gérer ou globalement, t'étais tout le temps sous l'eau niveau charge de travail?
Alors, entre les deux.
Entre les deux.
Alors, en fait, il y a évidemment deux phases dans une formation de pilote professionnel. Il y a la phase théorique avec la TPL théorique. Et ça a vraiment été la phase compliquée en termes de gestion de temps. Parce qu'évidemment, là, j'avais un emploi d'ingénieur en informatique à 100%. Donc, ceux qui ont fait ça en parallèle d'un boulot connaissent assez bien la problématique. C'est-à-dire que ben, tu bosses ton nombre d'heures normal pendant la journée, puis après, tu rentres à la maison et ça s'arrête pas. Donc, faut aller faire des questions, lire les bouquins, refaire des questions, relire les bouquins, ainsi de suite. Et c'est vraiment un truc qui est non-stop, quoi. Donc, c'est-à-dire, t'as un quart d'heure avant de manger, le temps que le repas il chauffe, bah, bah, tu fais un quart d'heure de questions. Tu vas te coucher, le temps d'aller se coucher, bah, allez, avant de se coucher, bah, une demi-heure de questions. Le week-end, bah, est-ce que je vais skier? Bah, non, je vais pas skier, je vais faire des questions. Donc, c'est vraiment un truc qui est vraiment non-stop. Et en plus, c'est assez long parce que ceux qui le font en intégré comme toi, je crois que vous faites la TPL théorique en 6-7 mois, quelque chose comme ça. Donc, ça va assez vite et c'est possible de soutenir un effort important sur 6-7 mois. Mais moi, je l'ai fait ce qui était considéré assez rapide pour cette école-là. Moi, je l'ai fait en 14 mois, en parallèle du boulot. Et ça, c'est un effort qui est beaucoup plus long et c'est beaucoup plus fastidieux. Surtout que, évidemment, bah, sur 14 mois, tu as le temps d'avoir un peu des points bas où tu te dis oh, j'en ai marre de ces questions, ils m'embêtent avec leur formulation à deux balles, ce qui est tout à fait justifié. Tout le monde passe à travers cette phase. Mais quand tu es dans le rush en 6 mois, ça, je pense que ça passe un peu plus vite. Alors que quand tu es tout seul devant ton bouquin, c'est moins facile. Donc ouais, la TPL théorique, c'était beaucoup de boulot et c'était vraiment de tous les instants. Donc voilà, bon, ça se fait. Hein. Il y a plein d'autres gens qui l'ont fait de la même manière que ce que j'ai fait. Après, une fois la pratique, c'est souvent aussi un petit peu compliqué. Alors déjà, parce que ça coûte horriblement cher. Donc c'est déjà une considération qui est assez importante. Mais en plus, ça prend quand même relativement pas mal de temps. Alors c'est là où je considère que j'ai eu énormément de chance. Donc déjà l'école était à 10 minutes en voiture de mon boulot, hein. Donc c'était l'école est à Lausanne, donc moi je bossais juste à côté de Lausanne, donc c'était très pratique. Mon boulot ont été extrêmement conciliants, ça je suis vraiment très reconnaissant pour ça, et je leur avais dit sur le moment, eux m'ont accordé un temps partiel. Je sais que en France, pour un homme d'avoir un temps partiel, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Ça, c'est un des avantages en Suisse. C'est relativement commun. Il y a beaucoup de gens qui sont en temps partiel pour tout plein de raisons diverses et variées. Mais en tout cas, du coup, moi, quand j'ai demandé un temps partiel 90%, alors ils m'ont accordé sans problème. Et non seulement ça, mais en plus, ils ont été vraiment extrêmement sympas parce qu'ils m'ont dit, bah écoute, c'est un 90%, puis tu le poses quand tu veux. Donc ça veut dire que je pouvais dire, bah en fait, j'ai eu un truc, ça va, c'est demain après-midi, je vais voler. Ouais, pas de souci, vas-y. Et puis bah j'allais le matin, j'avais prévu de voler, en fait il faisait pas beau, bah je retournais au boulot et je dis bah ouais bah il faisait pas beau, et puis bah ok bah vas-y assieds-toi, et puis ma demi-journée était pas décomptée, donc c'était vraiment quelque chose d'extrêmement flexible et eux ont été vraiment adorables à ce niveau-là, donc j'ai pu faire un peu ce que je voulais finalement. Et donc, et ça, ça a vraiment été quelque chose qui était très important pour moi, parce que si ça le faisait pas, ce qui était dans la manière de laquelle j'avais calculé que ça le fasse pas, que j'arrive pas à être pilote, c'était ça qui était le plus probable, donc fallait que ça fonctionnait. Donc là, ça fonctionnait parce que, bah voilà, le jour où la formation pratique elle s'est finie, je suis resté à 90%, comme ça me faisait un peu plus de temps libre, et puis j'aurais pu revenir si j'avais à 100% si je l'avais souhaité. Donc c'était vraiment c'était vraiment top pour ça. Donc j'ai réussi à avoir cet arrangement et c'était vraiment idéal, quoi. Donc je pouvais faire les deux en même temps, et puis la pratique c'est quand même plus tranquille que la TPL théorique en termes de charge de travail et de charge de temps occupé.
D'accord, bien heureusement du coup que t'avais cet emploi là parce que j'imagine que pour d'autres personnes qui ont des emplois beaucoup moins conciliants ou des choses comme ça, ça doit être vraiment difficile à gérer. Moi, je suis assez admiratif de gens qui arrivent à faire ça en parallèle d'un boulot. Alors, dans ta présentation, et puis on en a déjà discuté un petit peu, on a abordé le fait que tu baignes dans ce monde, le monde de l'aéronautique, depuis que tu es jeune. Et tu l'as dit toi-même, hein, tu as écouté un peu les histoires de guerre des anciens ou moins anciens à l'aéroclub ou ailleurs. Toutes ces choses qu'on entend, ça nous amène à nous faire un peu une image du monde de l'aéronautique qui est parfois un peu fantasmée ou pas toujours conforme à la réalité. Est-ce que ça a été le cas pour toi? Est-ce que tu as découvert des choses au fur et à mesure que tu avançais dans le monde de l'aéro et que maintenant tu es pilote de ligne? Est-ce que voilà, il y a des choses qu'on pense dans l'imaginaire un peu collectif ou même chez les passionnés, mais juste qui connaissent pas le métier, est-ce qu'il y a des choses qui sont très différentes de ce à quoi tu t'attendais?
Ouais, alors ça c'est vraiment une excellente question et je dirais que oui, il y a un énorme écart en fait. Je dirais que le métier de pilote de ligne, c'est un métier que beaucoup de gens pensent connaître et en fait, le métier de pilote de ligne tel que moi je le ressens aujourd'hui que j'exerce cet emploi, c'est vraiment complètement pas du tout ce que j'entends des gens qui en parlent autour de moi sur les forums. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, c'est un peu dommage, et c'est quelque chose qui est, à mon avis, très important pour que les gens qui se lancent dans une formation, ils comprennent un peu plus mieux. Qui comprennent un petit peu mieux, en tout cas, la réalité de ce boulot. L'exemple tout bête que je prends souvent, c'est, on voit beaucoup, par exemple, sur les forums, moi, est-ce que je vais être pilote sur A320, sur 737, ou est-ce que je vais faire du 777, ou est-ce que je vais faire de la TR, tel avion, c'est mieux qu'un autre. Et ça, c'est clair qu'à partir du moment, la seconde où on a, alors peut-être pas la première seconde, mais disons, au bout de 2-3 mois, et même souvent avant, l'avion, c'est pas important. Ce qui est vraiment le plus important, c'est les conditions de travail, c'est le planning, c'est comment ça fonctionne. C'est quand même assez particulier ce métier de pilote de ligne parce que la compagnie pour laquelle on travaille va déterminer énormément de choses qui ne sont pas déterminées par notre employeur dans beaucoup d'autres emplois. Par exemple, une compagnie aérienne, elle va décider quand est-ce que tu dors, elle va décider quand est-ce que tu dors pas, elle va décider dans quel pays est-ce que tu as ton système social, dans quel pays est-ce que tu as ta retraite, quand est-ce que tu travailles, est-ce que tu bosses pour une compagnie charter et puis tu bosses tous les week-ends, et puis du coup si tes enfants ils sont à l'école, tu les vois jamais le week-end, est-ce que ça va déterminer, est-ce que tu as le droit d'avoir est-ce que tu as la possibilité d'avoir des vacances scolaires. Ça détermine une partie énorme de ta vie. Et donc, ça détermine également ta vie de famille. Par exemple, si tu bosses dans une compagnie aviation d'affaires, mais ça existe aussi un petit peu dans la ligne, où tu es d'astreinte 24-24, 7/7 toute l'année, ta vie, elle va en prendre un coup, quoi. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment extrêmement importantes et énormément plus importantes que l'avion sur lequel tu voles. Alors évidemment, il va y avoir une corrélation, hein entre l'avion sur lequel tu voles et le type de planning qui sont associés. Ça, c'est clair que dans l'aviation d'affaires, faut apprendre à être beaucoup plus flexible. Et dans l'aviation de ligne, sur des compagnies, disons, régulières, alors, il n'y a pas tellement de flexibilité à avoir. Alors, quand même, toujours un petit peu, mais en fonction de tout ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important, à mon avis. Et en fait, quand on va dans un cockpit et que les gens ils parlent de leur boulot, en fait, on parle quasiment que de notre planning. Alors, c'est peut-être un petit peu dommage, mais en fait, si on y réfléchit bien, c'est quelque chose qui détermine quasiment toute l'organisation de notre vie. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important et dont on entend assez peu parler. Après, est-ce que l'avion, il est plus gros, plus petit ? ouais, ça a une importance, mais qui est extrêmement secondaire par rapport à tous ces facteurs de planning, d'organisation de vie, parce que ça, assez vite, ça devient vraiment quelque chose d'important. Et puis, dans le cas d'une vie de famille, si ça, c'est quelque chose qui intéresse les gens, ce qui n'est pas nécessairement le cas, hein, mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement important. Et c'est là où je considère être très, très chanceux aujourd'hui. Après, il y a aussi, on entend beaucoup, ouais, les pilotes de ligne, c'est des pousseurs de boutons, on pilote plus l'avion. Ouais, ben moi je suis pas vraiment d'accord avec ça, même je suis pas du tout d'accord comme avec ça. Les pilotes de ligne, en tout cas la plupart, que quasiment tous que j'ai rencontrés, c'est des gens qui sont très intéressés par la technique. Alors oui, ben on fait moins de pilotage manuel gauche droite haut bas, mais bon ça c'est quelque chose que assez vite, bon c'est assez vite acquis dans la formation. Et puis ben quand on fait de l'IFR, on fait des trajectoires tout droites, ça a pas un intérêt, un grand intérêt de piloter des trajectoires tout droites. En tout cas, moi ça, je dois reconnaître, ça ne m'intéresse pas. Par contre, c'est clair que si on est un petit peu curieux, si on s'intéresse aux différents types d'approches, ben, comment ça fonctionne une approche GPS, quelle est la différence avec une approche RNAV, RNP, tout ça, si on s'intéresse aux détails, donc on peut être pilote en s'intéressant pas du tout aux détails, c'est quelque chose qui est tout à fait possible de passer les simu rallye minima, ça fonctionnera. Mais c'est aussi beaucoup plus fréquent d'avoir des gens qui s'intéressent. Ah bah ouais, mais tel type d'approche, si on fait ci, comme ça, comment ça fonctionne? Ah, pourquoi c'est fait comme ça? Ah ouais, c'est vrai, pourquoi c'est fait comme ça? Ah bah tiens, viens, on va demander au référent technique de flotte. Ah oui, bah pourquoi c'est comme ça? Puis lui, il a toute une histoire, puis t'apprends beaucoup plus de background sur l'item que tu te posais, puis plein d'autres trucs, et du coup, tu comprends mieux ce qui se passe. Bah pourquoi tel et tel contrôleur aérien, il nous embête toujours à vouloir nous faire descendre plus bas? Alors bah ça, faut regarder dans les cartes, ou sinon maintenant avec Internet, on peut facilement contacter des contrôleurs aériens. Bah écoute, pourquoi vous faites ça comme ça? Je comprends pas. Puis après, ah oui, mais regarde, c'est pour ça, sur cette zone-là, on a telle et telle arrivée qui nous bloque, ou les militaires, ou autre chose. Et dans tel et tel et tel cas, on peut vous faire descendre. Et puis du coup, ça c'est quelque chose qui enrichit tes connaissances en tant que pilote. Alors ouais, c'est pas des trucs manche au bas gauche droite, mais c'est quelque chose, des choses qui sont extrêmement importantes aussi de comprendre l'environnement dans lequel on évolue. Et puis après, c'est pareil, des gars qui font du long courrier, ils vont dans plein d'autres pays différents. Alors en Europe aussi, mais c'est quand même pas trop mal standardisé. Pourquoi dans tel pays ils font ça comme ça? Alors ça, c'est, il y a des gens dans les compagnies qui savent, et ça, en faisant de l'instruction, j'ai de la chance que les gens ils viennent avec moi avec des questions. Et puis des fois je sais pas, alors des fois je sais, mais des fois je sais pas, alors on regarde ensemble. Et puis on s'intéresse au pilotage, alors fin de l'avion, et puis l'avantage aussi à Genève par exemple, d'être basé sur un moyen aéroport avec du relief magnifique, on fait beaucoup d'approches visuelles qui sont vraiment super cool quoi. Alors on n'est pas obligé de le faire, on peut pas s'embêter parce qu'on est fatigué, ou alors parce que ça nous intéresse pas, on peut faire une approche ILS standard, laisser l'autopilote jusqu'à 400 pieds, ça fonctionne. Mais en général, la plupart des gens sont super intéressés de faire des approches visuelles, radio Jura, en plongeon derrière pour aller chercher la finale. Ça, c'est des trucs qui sont super. C'est une bonne nouvelle qu'il y a beaucoup de choses qui sont très cool dans ce métier, dont on ne parle pas en temps normal. Et puis c'est vrai que les choses qui sont importantes, le référentiel est souvent un peu décalé, je dirais.
Alors pour continuer sur quelque chose que l'on n'attendait pas, on est tous en train de traverser la pandémie Covid-19. Cet épisode est enregistré fin novembre 2020, mais on peut déjà commencer à prendre un petit peu de recul, notamment sur les effets du premier confinement qui a stoppé net toute activité. Alors, j'ai deux questions au final. Comment cette situation a affecté ta compagnie aérienne ou les compagnies low cost en général? Et il est plus ou moins admis que le modèle low cost a plus de résilience face à des crises comme celle-ci, comparé aux compagnies traditionnelles, comme Air France par exemple. Et qu'est-ce qui, selon toi, fait cette différence, notamment ce qui est visible du côté opérationnel?
Ouais, alors ça c'est une question qui est pas évidente. Alors c'est sûr que le Covid, ça a surpris tout le monde, c'est clair. Les low cost ont cet avantage d'être des compagnies, en anglais ils disent lean, donc très très efficiente, très très optimisée. Ça c'est clair que nous, nos turns, c'est 35 minutes. Et puis moi j'avoue, j'ai fait que de la low cost pour l'instant, et pour moi 35 minutes en tant que pilote, c'est largement suffisant. Alors pour les personnels de cabine et pour les personnels au sol, c'est beaucoup de boulot de faire 35 minutes. C'est vraiment très, très difficile pour, dans certaines circonstances, avec des avions pleins l'été quand c'est le bazar et ce genre de choses. Donc, tout est vraiment très, très optimisé. C'est vrai que des fois, quand on voit des compagnies plus traditionnelles mettre en avant des trucs qu'ils font pour économiser du pétrole ou pour optimiser leur opération, ben, c'est sûr qu'en venant d'une low cost, on se dit, ah ouais, bon, bah, ça, nous, bah, voilà, moi, ça fait 4 ans que je vole, ben, moi, j'ai connu que cette manière optimisée de faire. Donc, après, les problématiques sont pas les mêmes. On n'a pas de hub, on n'a pas de fret, on n'a pas ce genre de choses. Donc, c'est des logiques qui sont un peu différentes. Mais c'est clair que les compagnies low cost sont très, très optimisées. Un exemple tout bête, c'est que, en termes de locaux, des compagnies, des majors ont des énormes bâtiments hein, qu'on connaît très bien. Air France, si on va à Roissy, bah, ce bâtiment de la Cité PN, il est gigantesque. Hein, c'est marqué dessus, ça se voit bien. Alors que, bah, par exemple, ma compagnie, ils ont un bâtiment qui est plus petit que ça pour une compagnie qui a plus d'avions. Donc, c'est très, très optimisé. À Genève, il y a peut-être quelques bureaux. Et puis, pour nous, les équipages, on a même pu aujourd'hui. Alors, c'était évidemment avec le Covid, ça a facilité ça, mais c'est quelque chose qui devait se produire de toute manière. On n'a plus de salle de briefing, c'est-à-dire qu'on va directement à l'avion. Donc évidemment, eux vont économiser une partie des coûts liés au fait que les équipages arrivent plus tard à l'avion, liés aux salles de briefing et ce genre de choses. Donc, et ça, alors au début, les gens ont toujours un peu de résistance face à ça. Et honnêtement, c'est vraiment quelque chose qui est pas mal. Alors bon, bah, nous, c'est aussi plus facile hein, parce qu'on est 6 en équipage. Donc les gens qui faisaient du 380 ou ils sont, je sais pas, 35, c'était un peu plus compliqué de faire le briefing à l'avion. Mais nous, un équipage à 6, ça fonctionne super bien. Donc, bah, ça fait des locaux en moins, tout plein de trucs comme ça qui sont hyper optimisés. On a plus de plan de vol papier, par exemple. Donc, ça fait des économies d'impression phénoménales parce que, en temps normal, bah, quand tu faisais tes 4 vols de la journée, t'as imprimé 80, 100 pages. Il y a 18 avions et puis il y a en général, ils volent 8 vols, 6 à 8 vols par jour. Donc, c'est plein de petits trucs comme ça qui, mis bout à bout, font une différence. Donc, c'est clair que c'est beaucoup plus optimisé. Et ça fait une différence. Et puis après, tout ce qui est planning aussi, hein, nos avions, ils volent plus. Et aussi, on est moins exposé au long courrier. Et ça va être une très grosse différence. Alors, c'est déjà une très grosse différence. Et ça va continuer, à mon avis, à être une grosse différence. Parce que le long courrier, ça va continuer à être très compliqué. Alors que le moyen courrier, il y a quand même bon espoir que ça reprenne assez vite. Enfin, c'est ce qu'on espère.
Oui, c'est ce qu'on espère tous. Enfin, tous. Tous ceux qui ont intérêt à ce que l'aviation reparte assez rapidement.
Bien sûr.
Alors, je te propose qu'on parle maintenant un peu plus de ton quotidien de pilote de ligne sur A320 basé à Genève. Alors, à quoi ressemble une semaine type pour toi ? Quel est ton roster ? Et si tu pouvais aussi nous expliquer ce que ça veut dire. Et en plus de ça, tu es également instructeur. Comment ça s'insère dans ton planning ?
Alors là, on vient au cœur du sujet de ce métier, comme je dis, le planning. Alors ouais, alors ça, c'est quelque chose qui va varier énormément de compagnie en compagnie, même de base en base et de position en position. Un commandant et un copie peuvent avoir des arrangements de planning qui sont assez différents. Alors, évidemment, je vais parler du pré-Covid parce qu'en ce moment, ça compte pas trop. Alors, de manière générale, nous, la manière de laquelle est structuré notre planning, en général, on travaille des blocs de entre 4 et 5 jours, des fois 3, exceptionnellement 2, mais en général 4 à 5 jours de boulot. Sur ces 4 à 5 jours de boulot, en général, il va y avoir une ou deux astreintes. Donc on parle de stand-by dans l'aérien. Et après, bah, ces stand-by, il y a différents types en fonction des compagnies. Il y a des stand-by où on va devoir être à l'aéroport en tenue, à regarder le plafond jusqu'à ce qu'ils nous appellent, grosso modo. Et il y a les stand-by où on peut être à la maison, à attendre qu'ils nous appellent. Après, un des critères extrêmement importants, c'est le temps qu'on a pour arriver à l'aéroport. Nous, on a 90 minutes. Donc, 90 minutes, c'est juste bien. Alors, ça dépend à quelle distance on habite de l'aéroport, bien sûr. Moi, j'habite assez proche. Donc, 90 minutes, c'est même peut-être un petit peu trop. Quand il est 5 heures du matin, ben, je pourrais dormir 20 minutes de plus. Mais, donc voilà. Et donc, sur ces blocs-là, il y a 4 ou 5. Après, nous, la topologie de nos vols, on fait pas de découcher. Donc, ça, c'est un avantage. Alors, c'est très subjectif, hein, mais pour moi, c'est quelque chose qui a un énorme avantage. Donc, je rentre tous les soirs chez moi. Ou tous les après-midi. Et donc, ces journées de vol, il y a un peu deux configurations possibles et une troisième quand c'est Noël. Enfin, Noël de manière figurative. Soit on commence entre 5h et 6h du matin, grosso modo, pour finir entre 9h30, alors ça c'est vraiment c'est magique, mais plutôt entre 11h et jusqu'à 17-18h. Alors ça, c'est ce qu'on appelle du tôt. Soit il y a du tard, donc on commence entre 11h et 18-19h pour finir à 22-23h, quelque chose comme ça. En général, on peut émettre une demande. Donc il y a des gens qui préfèrent faire du tard, des gens qui préfèrent faire du tôt. Et eux essayent de, sur un même bloc, de pas faire varier. Parce que de se lever à 5h du matin, 2-3 jours, puis après de se coucher à 23h, 2-3 jours, c'est quelque chose qui est très très dur. Et notre corps commence à s'habituer à un truc un peu bizarre, parce que se lever à 3 heures du matin, quand même, ton corps, il dit pas que c'est quelque chose de normal. Et puis après, si tu switches dans le même bloc, c'est souvent un peu difficile. Et puis même si t'as que 2 jours entre 2 blocs, c'est pas évident. Donc il y a un peu ça. Et puis une fois de temps en temps, quand c'est vraiment Noël, de manière figurative, il y a ces blocs de milieu de journée où tu vas faire un truc genre où tu vas commencer à 8-9 heures et tu vas finir à 16-17 heures. Souvent les vols très longs. On faisait de la Jordanie par exemple, alors le check-in était à 7h30, donc ça c'est juste parfait, et puis on finissait à 18h, parce que la Jordanie c'est assez loin, et ça ressemble à ça, donc 4-5 jours, et puis ben, si les astreintes elles sautent pas, ben, c'est plus ou moins du jour de repos. Alors ben, c'est évidemment, ça dépend, est-ce que c'est une astreinte tôt ou une astreinte tard, mais par exemple ben, les astreintes tôt, moi ça je trouve c'est vachement chouette, parce qu'il y en a qui commencent à 3h30 du matin, alors bon, ben, si je m'appelle à 3h30 du matin, ben voilà, je suis réveillé, je vais bosser, mais si je suis pas réveillé, ben ma fille est dans jusqu'à 7h, 8h, donc ben, je me réveille à 8h, puis l'astreinte est déjà pratiquement finie, donc ça c'est assez top, puis en général ils appellent peu en fin d'astreinte. Après, les astreintes tard, ben, il y a moins de chances de se faire réveiller à 3 heures du matin, ce qui plaît beaucoup à certains. Et par contre, ben, entre c'est quoi, 13h, 19h, quelque chose comme ça, ben, alors tu peux faire des trucs, tu bricoles à la maison, mais tu ne peux pas aller au ciné, par exemple. Tu ne peux pas aller voir un ami à 1h30 de route. Ou alors, sauf si ça joue encore avec les 90 minutes à l'aéroport. Donc ça, c'est comme ça que ça s'arrange. Puis après, ces blocs de travail, soit tu peux avoir 2, 3 ou 4 jours de repos. Alors évidemment, l'astreinte, si elle n'est pas déclenchée, ça compte pas dans ses jours de repos. Hein. L'astreinte, c'est un jour de travail officiellement. Et une fois par mois, on a le droit d'avoir que 2 jours de repos d'affilée. Mais la norme, c'est d'avoir 3 jours de repos d'affilée. Et une fois par mois, on est obligé d'en avoir 4. Alors si ça tombe sur un week-end ou la semaine, ça c'est un peu en fonction des préférences que chacun émette. Et donc, tu posais la question pour l'instruction. Ben, l'instruction, ça se goupille là-dedans. C'est-à-dire que c'est toujours par bloc de 4-5, là, comme je l'ai décrit avec les jours de repos. Et ben, au lieu d'avoir des journées de vol, ben, j'ai des journées d'instruction. Donc ça se goupille mieux avec le tôt. Donc par exemple, je vais faire 2 jours de vol tôt. Puis après, je vais faire un jour une demi-journée d'instruction. Je vais peut-être avoir 8h, 11h d'instruction. Puis après, je rentre à la maison et puis je peux revoler le lendemain. Ou alors, en fonction du type d'instruction qu'on fait, des fois c'est des journées complètes d'instruction, donc je vais faire par exemple je vais faire 3 jours d'instruction d'affilée, puis le lendemain je vais aller voler. Donc ça se goupille là-dedans et c'est cool parce que du coup ça fait de la diversité et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup.
Et cette organisation, bah, tu disais que ça dépendait pas mal des compagnies aériennes. J'imagine que dans la tienne t'as des conditions qui sont quand même plutôt correctes. Les compagnies qui donnent des conditions beaucoup moins acceptable entre guillemets, est-ce qu'elles sont contraintes par une autorité ou elles décident vraiment, comme tu disais, de quand tu dors, quand t'es réveillé?
Alors, elles décident, oui, quand tu dors, quand t'es réveillé, ça c'est clair, mais dans les limites de la réglementation européenne, ce qu'on appelle les FTL, les Flight Time Limitations. Donc il y a un cadre réglementaire qui est posé par l'EASA. Ce cadre réglementaire, il peut être implémenté de beaucoup de manières différentes. C'est-à-dire qu'en restant dans... Alors, toutes les compagnies en Europe restent dans ce cadre-là. Il y a quelques petites variations avec certains pays, dont la Suisse, mais elles sont, de ce que j'en connais, en tout cas, assez mineures. Mais ce que la réglementation te permet de faire peut accommoder beaucoup de situations différentes. Évidemment, la première question, c'est, par exemple, la butée annuelle, il y a une débutée annuelle, c'est 900 heures par an. Donc, voler 900 heures par an, si tu fais du long courrier, des très longs vols, alors bah, c'est plutôt difficile à cause du décalage horaire. Mais si tu fais 900 heures par an en faisant des journées de 5 à 6 secteurs, ça veut dire que ton temps de travail global, il va être énorme parce qu'évidemment, tu as toutes les périodes au sol que tu n'as pas en long courrier. Donc si tu voles au maxi réglementaire des 900 heures, la première année sur le boulot, ça va. La deuxième, tu commences à, enfin, la fatigue vraiment long terme et problématique va commencer à s'installer si tu vas au buté réglementaire. Donc la plupart des compagnies qui ont des conditions que moi je trouve qui sont bonnes, en fait volent pas du tout, vont pas taper les butées réglementaires. C'est assez rare de manière générale, mais c'est clair que 900 heures par an de vol, c'est vraiment beaucoup quoi. Nous on fait habituellement 700, 750, c'est bien. Alors évidemment le problème c'est qu'il y a la saisonnalité derrière tout ça, donc l'hiver bah tu vas voler beaucoup moins, tes astreintes elles vont pas sauter, et puis bah l'hiver, l'été plutôt, tes astreintes elles vont toutes sauter. Et puis évidemment, avec le système tel qu'il était saturé en 2019, par exemple, ça va prendre du retard. Tu vas, au lieu de finir à 23h, tu vas finir à 1h du matin, ça va finir en diversion. Et tout ça, c'est des choses qui vont ajouter de la fatigue. Donc déjà, avec 750 heures, c'est déjà pas mal. Avec plus de fatigue l'été, mais on a l'hiver pour récupérer. Après, si t'arrives à, peu de compagnies arrivent à maintenir un planning maximal sur toute l'année. Hein. Mais donc, il y a ce cadre réglementaire, mais qui peut être très fatigant. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces systèmes de gestion de la fatigue, parce qu'il est reconnu que le cadre réglementaire ne permet pas de résoudre tous les problèmes de fatigue et qu'il est possible d'être fatigué dans le cadre réglementaire.
Alors, je parlais au début du fait que, en plus d'être pilote de ligne, tu es également podcasteur. En effet, depuis 2017, tu produis le podcast Parlons Aviation, qui permet à, comme tu le dis, tous les curieux de l'aviation de pouvoir écouter des discussions entre passionnés. Alors, comment t'es venue l'idée de te lancer dans le podcasting, un médium quand même en assez forte croissance? Et tout comme moi, j'imagine que c'est également l'occasion pour toi d'apprendre des choses grâce à tes invités. Qu'est-ce que cette activité en parallèle des vols t'apporte personnellement? Et à contrario, quelles sont les contraintes engendrées?
Alors là, bah, y a un peu la version pas officielle, officieuse, mais... Alors moi, j'ai beaucoup écouté de podcasts quand j'étais ingénieur, en fait. Donc Lausanne, j'avais à peu près une heure de trajet pour y aller, une heure de trajet en voiture pour revenir. La radio de base, bon, c'est OK, mais ça parle pas assez d'avions pour des mordus comme nous. Donc j'avais découvert le podcast, puis j'avais beaucoup écouté de podcasts anglophones, et j'avais énormément appris de personnes qui étaient des pilotes professionnels ou des gens qui analysent l'actualité, ou des gens juste qui interviewent des gens sans... D'autres gens sont particulièrement, eux, professionnellement impliqués dans l'aviation. Mais moi, j'avais beaucoup appris des podcasts de tout ça, et j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de super. C'est un super médium où tu peux avoir des discussions de une heure et demie sur des sujets super techniques, puis aller en détail. Et puis moi, j'adore ça, quoi. Je pense à des podcasts comme Omega Tower, par exemple, lui a déjà fait des épisodes de 3h30 sur le F-14 Tomcat et ses missions. Alors c'est pas très grand public, je reconnais, de parler de 3h30 du même avion, mais moi j'adore ça, et puis je pense que beaucoup de passionnés d'aviation adorent ça, la preuve du succès de certains de ces podcasts. Donc moi c'était un médium que je trouvais chouette. Et puis il s'est passé aussi quelque chose d'autre, c'est que pendant la TPL théorique j'avais eu très peu de temps libre, pendant la pratique un peu moins, et puis voilà, j'étais un peu la tête dans le guidon, puis soudainement je suis arrivé en compagnie, j'ai été lâché en ligne, et puis là j'avais un peu plus de temps libre que ce que je savais quoi en faire. Donc bon, voilà. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour m'occuper? J'avais diverses idées. Et puis, une de ces idées, ça a été de faire un podcast. Je savais pas trop faire ça. Moi, j'ai jamais fait ça. Puis, j'ai essayé. J'ai fait des premiers épisodes qui étaient pas aussi bien que les tiens, hein, je pense. Mais voilà, j'ai essayé de faire quelque chose. Et puis, au fur et à mesure, c'est le format s'est un peu ajusté. Ce qui intéressait les gens, j'ai essayé de plutôt viser dans une direction ou dans l'autre. Au début, il y avait des formats où j'étais un peu en solo. Alors ça, c'était pas aussi bien que quand il y a d'autres personnes ou quand il y a une conversation qui s'installe, évidemment. Et au fur et à mesure, voilà, ça s'est mis en place. Et puis presque étonnamment, il y a des gens qui se sont dit que c'était intéressant ce que je faisais, et donc qui se sont mis à écouter. Donc maintenant, voilà, il y a un auditorat qui est assez intéressé par ce que je propose. Donc c'est vraiment sympa. Et l'aviation, je trouve que c'est vraiment un milieu super de manière générale, mais ce podcast, ça m'a encore plus ouvert les yeux là-dessus, parce que grosso modo, la manière dont je trouve des invités, c'est, soit je vois quelqu'un qui a fait un truc cool sur Internet, donc l'épisode précédent, par exemple, c'était ça, il y a un gars qui a posté comme quoi il avait été en Norvège avec son Fournier RF5, donc une sorte de motoplaneur. Moi, je me dis, waouh, mais c'est trop cool, moi aussi, j'aimerais bien faire ça. Donc, je dis, salut, est-ce que ça te dit de venir sur le podcast parler de ton voyage? Puis, les gens, ils sont là, ouais, ok, pas de problème. Et puis, ils parlent, et puis, c'est super sympa, quoi. C'est comme si, on a tous quelque chose en commun, puis les gens, ils sont tous super sympas, quoi. Donc, je contacte un peu des gens au hasard, puis ils sont tous super sympas, ils ont tous des choses super intéressantes à raconter. Donc, C'est vraiment chouette. Et puis au fur et à mesure du temps, ce qui se passe, c'est que les gens, ils disent « Ah, salut Antoine, on avait fait un épisode machin il y a quelques temps. Moi, je connais Bidule, il a fait tel autre truc cool, ça te dit ?» Moi, je dis « Bah ouais, c'est clair, trop cool. Bah allez, viens sur le podcast. » Et puis c'est comme ça où l'épisode 80, c'est un gars qui s'est retrouvé avec un bout d'avion de chasse, donc le bout pointu avec le cockpit, puis il a tout restauré ça, et puis il a retrouvé le logbook de l'avion qu'il a récupéré, et il s'est mis en tête de contacter tous les gens qui avaient volé sur son avion pendant la guerre du Vietnam. Waouh, c'est génial, quoi. Un mec aussi passionné que ça, qui fait quelque chose d'aussi cool, ces histoires, elles sont géniales, puis elles gagnent à être raconté, en tout cas, ces histoires qui sont chouettes. Donc c'est effectivement, ouais, les conversations que j'ai avec les gens, que je partage avec le reste des gens qui veulent bien l'écouter, c'est vraiment super, quoi. J'ai beaucoup de gens super, je passe toujours un super moment, et à chaque fois que, voilà, quasiment à chaque fois que je fais une interview, je me raffole, il était trop cool, on a parlé de ça, c'était trop génial. Bon, ma femme, elle en a un peu marre depuis le temps, mais elle a l'habitude, donc voilà. Après, au niveau contraintes, ouais, c'est des contraintes, mais moi, ça me fait vraiment plaisir de le faire. Donc, toutes les deux semaines, moi, c'est mon rythme. Et donc, c'est un peu ça séquence ma vie. Alors, en ce moment où je suis un peu pas tellement occupé par le boulot, c'est quelque chose qui est pas mal. Il faut que l'épisode il soit prêt, grosso modo, 4-5 jours avant. Donc, deux semaines avant, je commence le montage. Tout ça, j'enregistre les interviews un peu au fil de l'eau. Donc, l'avantage, c'est que c'est pas du média d'actualité. Hein, c'est des choses que, si on en parle dans un an, c'est toujours intéressant. Donc j'ai beaucoup d'avance, enfin ça dépend des fois, mais souvent j'ai 3-4 mois d'avance sur l'enregistrement d'interview, puis je monte ça un peu au fil de l'eau, et ça se fait assez bien. Ouais, ça demande du temps, mais c'est vraiment quelque chose que je fais avec grand plaisir, parce que d'avoir la conversation la première fois, c'est sympa, de la réécouter une deuxième fois, ça fait aussi vraiment plaisir de se remettre dedans, quoi.
J'imagine que ouais, c'est un peu la même chose que pour moi, dans le sens où on a souvent l'occasion d'entendre des histoires intéressantes, et on se sent presque égoïste aussi de les garder pour nous au final. C'est les partager avec d'autres personnes que ça pourra intéresser, c'est génial. Et puis merci beaucoup pour ton podcast d'ailleurs, qui a été une de mes inspirations,
avec
une
plaisir.
De nos inspirations, avec les amis avec lesquels on fait l'expérience Shiban. Voilà, alors question suivante, on va se rapprocher tout doucement de la fin de cette interview. Tu es instructeur, podcasteur. Le partage est donc quelque chose qui visiblement te passionne. Qu'est-ce que tu penses de l'image qu'a le secteur aéronautique vis-à-vis du grand public? Je pense notamment à cette image de pollueur ou de moyen de transport réservé aux classes aisées. Et qu'est-ce qu'on peut faire, selon toi, petite, moyenne ou grande échelle, pour quand même continuer à rappeler aux gens qu'il s'agit quand même d'un secteur exceptionnel qui véhicule tout un tas de valeurs et de sentiments positifs?
Ah ouais, ça c'est une excellente question, et le secteur de l'aérien va devoir y répondre. Alors le secteur de l'aérien, c'est pas une masse uniforme, hein, c'est chacun va devoir un peu apporter une réponse à ça. Pour être honnête, je saisis pas bien toutes les manières de penser des gens qui sont impliqués, alors soit pour le pour, pour le contre. J'ai un peu de mal à comprendre, je dois reconnaître. C'est vrai que pour quelqu'un comme nous, c'est tellement une évidence de prendre l'avion. C'est tellement sûr. Bah oui, moi je prends l'avion, bien sûr. Après, on peut pas nier. Alors il y a souvent cet argument de dire ouais, mais c'est que 2%. Et la réponse est de dire ouais, on s'en fout, c'est 2%. Bah ça c'est pas juste, c'est pas une position qui va être tenable. On peut pas dire c'est que 2%, parce que c'est vrai que c'est peut-être que 2% ou 3 ou 4. Il y a 30 000 débats sur les chiffres qui sont à mon avis pas tellement pertinents. Peu importe, il faut que tout le monde fasse des efforts. Il y a un problème qui va se poser, c'est clair et net. Donc il faut que tout le monde fasse des efforts, et de dire ouais, mais moi je fais moins que truc, non, c'est pas ça, parce que il faut tous faire des efforts.
Quand tu parles de 2%, c'est les émissions, la part de l'aviation dans les émissions des gaz à effet de serre, c'est bien ça?
Ouais, alors il y a toujours plusieurs chiffres, mais c'est vrai oui. que c'est de l'ordre de. Alors parce que il y a le forçage. Bon, je suis pas du tout un expert là-dedans, mais il y a plusieurs chiffres qui oscillent entre 2 et 4%. Et c'est clair qu'on doit tous faire un effort là-dessus. Tout le monde, on pourra pas rester passif et dire oui, mais et pointer le doigt au voisin, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que le voisin, il va faire la même chose avec le voisin, puis on va faire un cercle à la fin. Donc rien ne sera résolu. Donc c'est vrai, il faut faire un peu quelque chose. Voilà, après, ce qui est clair pour moi, c'est que l'aviation aujourd'hui est une composante fondamentale de notre mode de vie moderne. Par exemple, si on prend des exemples tout bêtes, que je pense que tout le monde, qui parle à tout le monde, par exemple Erasmus, on a dit, on trouve que c'est génial que les jeunes, aient une expérience à l'étranger, qu'ils aillent ailleurs, hors de leur zone de confort, dans un autre pays, pour apprendre une langue, pour découvrir des cultures. Ok, très bien. Et c'est une excellente idée, je pense que personne ne remet ça en cause. Mais c'est clair que le programme Erasmus doit une partie, hein, pas tout, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais une partie de son succès à, par exemple, l'aviation low cost. Aujourd'hui, si tu pars, en Angleterre, en Écosse, et que tu pars pour 6 mois, 1 an, tu peux raisonnablement, facilement, en termes de coûts et en termes de complexité, rentrer voir ta famille pour Noël, rentrer tous les 2-3 mois pour voir des amis, pour voir ta copine, ta conjointe ou ton partenaire. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Puis surtout, ce qui se passe ensuite en Erasmus, je pense qu'on a tous, les gens qui ont mon âge, des exemples de gens qui sont allés en Erasmus et qui ont trouvé leur femme, leur conjoint, leur partenaire, et donc qui retournent, et puis après, ils vivent ensemble. Et puis on a aussi, on a beaucoup entendu ça depuis 2008, pour trouver du boulot, il faut être prêt à s'expatrier. Ouais, ok, c'est vrai que c'est une option pour pas mal de gens, et puis pas mal de gens qualifiés, pas mal de pilotes ont choisi cette option. Et on a dit aux gens, faut s'expatrier. Ok, c'est vrai que c'est une bonne idée. Moi, c'est ce que j'ai fait, je suis allé en Suisse, par exemple. Et quels sont les moyens pour continuer à garder contact avec sa famille, avec les grands-parents, avec les parents? Globalement, quand même, c'est l'avion. Parce que soit on s'est expatrié, on habite à côté de la frontière, on a fait 15 kilomètres, mais habituellement, quand on s'expatrie, c'est en général au moins quelques centaines, voire des milliers de kilomètres. Donc les gens, ils vont retourner voir leur famille. Le Covid, ça a clairement mis en exergue des situations où des gens habitaient un peu loin de leur famille, ils ont eu un enfant, puis les grands-parents vont pas avoir vu l'enfant pour sa première année et demie de vie, et puis ça c'est dommage, quoi. Donc c'est l'aviation en large partie qui permet de résoudre ces problématiques un peu sociales et humaines, de connecter les gens entre eux, et ça je pense que c'est quelque chose d'important. Après on peut débattre, c'est quelque chose qui est subjectif, je reconnais. Après l'aviation aussi c'est quelque chose qui est extrêmement important pour tout ce qui est fret et cargo, hein. Amazon et UPS, on a les colis le lendemain ou le surlendemain ou même 10 jours plus tard grâce à l'aviation. On va parler de distribution d'un vaccin Covid, le vaccin Covid il va pas venir en vélo, hein. ça marche pas. Alors oui, il peut venir en camion, est-ce que c'est mieux, plus ou moins bien que l'aviation? Moi je sais pas franchement. Mais c'est un service. L'aviation, c'est une infrastructure fondamentale de notre société, comme le sont les routes. Les voitures sur les routes, ça pollue, c'est clair. C'est un problème qui est en train d'être en voie de résolution, en partie, ou en tout cas en voie d'amélioration. Et à mon avis, l'aviation, c'est pareil. C'est un service structurant de notre société. Et c'est pour ça que c'est bien quand on voit un soutien au secteur de la part des gouvernements dans le Covid. Alors moi, je suis pas en train de basculer dans le politique, mais voilà, c'est des services d'infrastructure qui sont essentiels pour plein de choses. Alors c'est vrai que c'est souvent un peu sous la ligne d'eau de l'iceberg, mais quand même, c'est clair que c'est super important. Et un monde sans aviation, je pense qu'on l'imagine pas tellement, et je pense que les conséquences, le jeu n'en vaut pas la chandelle à mon avis.
Alors c'était une question potentiellement polarisante, donc merci pour ta réponse. Alors on arrive à la fin de cette interview, et c'est une constante dans l'expérience Shiban. Est-ce que, juste pour le plaisir des passionnés, est-ce que tu pourrais nous raconter des histoires d'aviateurs, des moments en vol qui t'ont marqué, notamment parce qu'ils étaient instructifs, drôles ou juste plaisants?
Ouais, bien sûr, avec plaisir. Alors bon, il y a toujours plusieurs types de situations. Moi, les situations que je retiens, c'est les situations où la formation, notre formation est rentrée en jeu. Donc, c'est une situation qui m'est arrivée récemment. Alors, j'ai pas volé beaucoup ces derniers mois, mais il m'est arrivé pas mal de situations intéressantes avec pas mal de remises de gaz. Alors, bon, Il faut savoir qu'en tant que pilote professionnel, quand on reçoit le plan de vol, on planifie jamais que le plan A, quoi. Et alors, on va de A à B, oui, mais si A, B, il fait pas beau, ben on va à C. Et souvent, on se dit, attends, et D, il est combien? Ouais, ok, si on raccourcit comme ça, éventuellement, si vraiment ça va pas, on peut aller à D. Et donc, ce jour-là, et ça, c'est des trucs qu'on fait tout le temps, quoi. On se dit tout le temps, ok, bah, on prend un petit peu plus de pétrole. Comme ça, on peut attendre un peu d'avant aller à A. Ou alors, on sait qu'à B, il y a pas mal de monde. Donc, pour aller de A à B, il faudra un peu plus de temps. Donc, on va attendre. Donc, c'est des calculs qu'on fait tout le temps. Mais en réalité, ça se passe à peu près toujours bien. Donc, ces calculs, on les fait parce que, ben, c'est notre boulot, finalement. Et récemment, ben, donc, on a été à Nantes. Et la météo était annoncée pas très bonne. Mais bon, voilà, une météo, d'automne avec des nuages qui étaient 100 pieds au-dessus des minima. Donc les minima, c'est l'altitude minimale jusqu'à laquelle on peut descendre et à laquelle il faut voir la piste, sinon on peut pas se poser. Et donc, franchement, de pas voir la piste au minima, ben, jusqu'à ce jour-là, ça m'était jamais arrivé. Déjà parce qu'on a des avions qui sont extrêmement bien équipés avec des systèmes d'atterrissage automatique et tout ça. Donc ça, c'était vraiment, on se dit, ouais, bah voilà, on prend du fuel, mais ça va le faire. Allez, go, on va à Nantes. Alors on va à Nantes, on fait bon, ok, est-ce qu'il y a des avions qui ont réussi à poser avant nous? Ouais, ouais, pas de souci, il y a quelqu'un qui a posé une demi-heure. Bon, ouais, facile. Allez, business as usual, comme dit. Puis là, on fait l'approche, bam. Ouais, on voit le sol. Ouais, bon, quand on commence à voir le sol, on se dit, ça va se faire. Mais c'est pas ça qu'il faut voir, c'est la piste. En fait, on voit pas la piste. On fait la remise de gaz. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment l'habitude de faire fréquemment. Alors ça, c'est sympa, ça nous réveille, quoi. On se rappelle, ah oui, au Simu, on faisait ça. Puis après, bah, vient ensuite la structure de prise de décision. Alors c'est pas de la gestion de panne, mais gestion de situation adverse, disons. Alors ok, bon, est-ce qu'on fait une deuxième approche? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on a le droit? Oui, on a le droit. Ah bon, ok, bon, on avait le fuel pour faire une seconde approche. Ok, on fait une seconde approche. Et là, il y a un petit avion, un DA-40, qui faisait l'approche entre nous. Alors déjà, eux, ils nous le ralentissent, mais bon, plus on est lent, plus on consomme de pétrole, et là, la situation, elle commence à être pas terrible. Donc lui, il fait l'approche, puis eux, ils nous font traîner, puis à un moment, on dit, écoutez, je comprends qu'il y a un avion entre nous, mais nous, on va être minimum fuel dans 2 secondes, donc tournez-nous maintenant, sinon, on va se retrouver made et fuel si on voit pas la piste, parce que c'est ce qui se passe dans ces situations-là, si jamais vraiment ça joue pas. Donc ils nous tournent, très sympa, très efficace, comme toujours les contrôleurs français. Puis l'avion qui fait l'approche juste devant nous, il pose, c'est bon. Facile, n'est-ce pas? Bon, on a fait une remise de gaz pour se garder les idées fraîches. Et là, on va faire l'approche. Et en fait, on a encore moins vu. Alors, on n'a pas vu la piste du tout, mais on a encore moins vu du sol avant la piste. Et là, on se dit, bah mince alors! on avait jamais, enfin, dans notre tête, c'était bon, ça marchait toujours, ces histoires-là. Mais là, ça ne marchait pas, quoi. Et là, ce qui se passe, c'est que dans cette situation-là, on se retrouve, on avait du fuel pour faire une seconde approche. Mais pas beaucoup plus. Donc ça veut dire que là, on va arriver à poser avec une demi-heure de fuel restant, ce qui est le minimum réglementaire. Là, on avait un petit peu plus, on avait peut-être 40 minutes. Et là, faut pas traîner, quoi, parce que 10 minutes de marge, dans notre tête, c'est zéro, voilà. Donc, les contrôleurs ont mis un peu de temps, ils nous disent, attendez, on coordonne avec Brest. Nous, on dit, non, mais coordonnez pas, vous nous filez un cap vers Brest, puis on discute après, quoi. Puis ils ont fait ça, et puis on a été se poser à Brest, quoi. Donc c'est une histoire... c'est pas extraordinaire, quoi, mais c'est toujours sympa, ça fait plaisir de voir que les plans qu'on fait tout le temps, notre logique de raisonnement, on l'applique jamais, et intellectuellement, en tout cas, on n'est pas dans ce mindset de se dire qu'on va l'appliquer, et puis de voir que quand on l'applique, ça marche bien même, et ça fait vraiment plaisir quand on se dit, la formation qui nous a été donnée, qu'on a essayé de suivre de notre mieux, et ça fonctionne, et ça fait, en tout cas moi, ça me fait vraiment plaisir.
J'imagine bien de voir que ouais, c'est ça, le training au final a été efficace, et même si c'est des machines qui marchent super bien dans un système, au final qui marche super bien, quand ça merde, ça va quand même, quoi, parce qu'on fait ce qu'on nous a appris.
Ouais, c'est exactement, puis c'est aussi beaucoup de... C'est sûr, parce que techniquement, il ne s'est pas passé grand-chose, finalement, mais en termes de système humain, ça fonctionne vraiment bien. Vous voyez qu'avec le commandant, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui j'aime bien voler. On voit que ça fonctionne bien, que quand on est un peu dans l'adversité, ça fonctionne bien. Puis avec le personnel de cabine aussi, eux ont super bien géré. Et puis avec les contrôleurs français, on a l'habitude que ça se passe très bien. Mais là, ça, même dans l'adversité, eux ont été très bons, très efficaces, et ça a été vraiment top, quoi. Ça fait vraiment plaisir de se retrouver dans des situations comme ça, un peu, un peu anormal, disons, inusuel, et puis que ça fonctionne bien, ça fait vraiment plaisir.
Alors, si tu le veux bien, on peut peut-être faire une dernière question bonus. Alors, je sais que c'est un exercice assez difficile, notamment du fait, comme tu le disais, qu'il existe presque autant de carrières différentes que de pilotes, mais est-ce que tu aurais un conseil pour des jeunes ou des moins jeunes qui souhaiteraient se lancer dans une carrière de pilote de ligne aujourd'hui ?
Ouais, alors, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. À mon avis, ce qui est important dans cette carrière, c'est de comprendre vraiment quels sont les éléments qui sont importants une fois qu'on exerce le métier. Donc, moi, j'ai donné un peu mon avis à travers ce podcast, mais peut-être qu'il y a d'autres gens qui sont pas d'accord avec eux, et c'est important, à mon avis, aussi, d'avoir leur avis. Qu'est-ce qui est important pour un tel dans son boulot de pilote de ligne ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'il va se sentir épanoui, heureux ou pas ? Et je pense que c'est important d'avoir ce ressenti-là. Typiquement, à mon avis, pour se lancer dans une formation de pilote professionnel, il faut avoir compris l'importance du planning. Et donc, quand on choisit une compagnie, de faire la décision en fonction de ça. Après, on peut dire, j'accepte d'avoir une vie moins optimale pour pouvoir progresser et gagner de l'expérience. C'est tout à fait raisonnable. C'est ce que beaucoup de personnes se retrouvent à devoir faire, mais il faut être conscient un peu de tous ces choix. Souvent, on voit des gens qui disent « Ouais, c'est le meilleur métier du monde ». Alors, je ne sais pas si c'est le meilleur métier du monde de manière absolue, mais moi, je trouve que c'est le meilleur métier du monde, mais il y a plein de personnes qui ne seraient pas d'accord nécessairement avec moi. Et puis, en fonction de là où on travaille, ça peut vraiment être le meilleur métier du monde. Moi, je trouve que le contexte dans lequel je travaille aujourd'hui est génial, et puis j'aurais du mal à imaginer un boulot mieux que ça. Mais peut-être dans d'autres contextes, avec des astreintes 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ça m'amuserait beaucoup moins. Donc faut un peu avoir une vision globale, avoir évidemment vu les points positifs qui sont énormes, il y en a vraiment beaucoup, c'est génial comme boulot, mais aussi les points négatifs, de pouvoir voir comment ça peut être génial et de pouvoir voir comment ça peut être, je pense, un cauchemar. Et quand on arrive à avoir les deux facette de ce métier, alors je pense qu'on peut prendre une décision qui est plus réaliste, qui est plus optimale. Et puis aussi, ça peut guider nos choix de formation, par exemple, de faire le choix entre une école avec des partenariats, avec pas de partenariat. Est-ce qu'on veut un partenariat pour accéder plus rapidement à une compagnie avec des bonnes conditions de travail, ou une compagnie qui nous plaît pour une raison X, Y, et ces critères, on les considère importants, ou est-ce qu'on veut prendre le temps de plus galérer potentiellement 5, 10 ans en faisant une école avec moins de partenariat ou pas de partenariat du tout. Donc ça, tout ça, c'est des choix qui sont très importants, et on doit un peu voir ça de manière globale. Et moi, ce que je dis souvent aux gens qui me contactent, c'est que souvent les gens, ils disent comment est-ce que je choisis une école ? Et moi, mon argumentation, c'est plutôt, c'est pas la question que je pense qu'il faut se poser. Il vaut mieux se poser la question de dire dans quel type de compagnie est-ce que je veux travailler ? Dans quel type d'emploi de pilote je veux travailler ? Il y a tellement d'options différentes, du long courrier, du moyen courrier, du court courrier, du travail aérien, de l'aviation d'affaires, il y a tellement de trucs. Se renseigner, se dire moi je voudrais faire ça. Ok, les gens qui ont accédé à ce boulot-là, qu'est-ce qu'ils ont fait comme parcours, qu'est-ce qu'ils ont fait comme école ? Et ensuite, on peut choisir l'école. À ce moment-là, en partant de la finalité, parce qu'évidemment le but, c'est de devenir pilote dans un contexte dans lequel on s'épanouira, et ça, c'est très subjectif. Donc plutôt faire le cheminement dans l'autre sens. Pour moi, ça, c'est mon conseil, de comprendre le métier global, et puis de partir du métier pour choisir la formation et le parcours, plutôt que juste de choisir une école et de se poser ces questions-là un peu après la formation, où ça peut être trop tard, quoi.
Eh bien, merci beaucoup pour ces conseils que même si j'ai pas beaucoup de recul, même si j'en ai pas du tout d'ailleurs, je trouve très avisé. Et merci pour ton temps. J'espère que l'auditeur en aura autant appris que moi et aura passé un bon moment en ta compagnie. Juste pour terminer, comment est-ce qu'on peut te retrouver sur ton podcast ? Comment on peut écouter Parlons Aviation ?
Merci de m'avoir invité, c'était avec grand plaisir. Alors Parlons Aviation, si vous tapez juste Parlons Aviation dans Google, vous allez trouver. Le site web, c'est parlonsaviation.com. Pour le podcast, vous pouvez chercher Parlons Aviation sur n'importe quelle appli de podcast. Normalement, ça fonctionne. Et sinon, j'ai un Twitter qui est @parlonsaviation et puis une page Facebook que vous tapez Parlons Aviation donc vous pouvez me retrouver de cette manière.
Très bien. Eh bien, merci pour ton temps et à une prochaine.
Avec plaisir, à une prochaine.
J'espère que cet épisode de l'expérience Shiban t'a plu. Pour le numéro suivant, on se retrouve dans 15 jours sur ta plateforme de balado préférée. D'ici là, nous t'attendons sur Facebook, Instagram et Twitter au nom d'utilisateur XP Shiban. Tu y trouveras du contenu exclusif, notamment des sondages, afin que l'on puisse interagir pour déterminer ce qui t'intéresse et ainsi te proposer du contenu toujours plus adapté. Un retour d'expérience à nous faire ? On adorerait savoir ce que tu as pensé de cet épisode. Envoie-nous un mail à contact@xp-shiban.com et partage-nous ton point de vue. Et si tu apprécies notre travail, la meilleure façon de nous soutenir pour le moment est de mettre une note, un commentaire et surtout de partager les épisodes autour de toi. C'était l'expérience Shiban. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous et on se dit à dans 2 semaines.